Bonjour à toutes, mesdames. Je me présente, Eddy Ben Simon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le papa de Shirelle et de Sarah. Ce Dvar Torah est bien évidemment dédié à Léouni Shvat, donc de mes filles, de nos filles, Shirelle Esther Bat Keren, Vesara Bat Keren, que leur mérite nous rapproche de la Torah et de la Géoula avec l'arrivée de Mashiach. Amen. Donc, à quelques jours avant Rosh Hashanah, j'aimerais partager avec vous quelques notions qui sont intéressantes d'appréhender. Vous le savez bien évidemment que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, je ne vous ai rien appris. Nous devrions ressentir néanmoins des inquiétudes et des angoisses ce jour-là. Pourquoi? Dans la prière des Slichot que l'on fait actuellement, nous les hommes, le matin, il est mentionné, il est écrit une phrase qui nous interpelle. Qui pourrait ne pas trembler alors que le lion se tient devant vous dans la forêt? Personne, bien évidemment. C'est un peu cette image que nous devrions avoir ce jour-là. Une sorte de tremblement, de peur. Nous comprenons par cette réponse d'Hachem que c'est le sérieux, l'angoisse et l'introspection qui doit primer ce jour-là. Mais attention, la tristesse ne doit pas être présente, car elle empêche de servir notre Créateur et d'avancer. À Rosh Hashanah, il faut savoir que nous sonnons sans sonnerie. Le shofar a une puissance extraordinaire, tellement extraordinaire qu'il permet de briser les mauvais décrets et permet de trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est une mitzvah assez d'oraita, c'est-à-dire un commandement positif de la Torah, que d'écouter le shofar. Le Rambam souligne aussi que le shofar permet de nous réveiller, afin de nous initier à la tchouva. Écouter le shofar est d'une importance capitale, à tel point que les femmes qui sont normalement exemptées des commandements relatifs au temps ont pris l'habitude de l'écouter. Le thème que je vais aborder maintenant, c'est un thème très intéressant qui concerne la notion du couple à Rosh Hashanah. Vous allez me demander le couple, mais quel rapport? Vous allez comprendre. Nous sommes toutes et tous d'accord qu'un couple, c'est une nouvelle entité qui comprend deux mois, le mois de la femme et le mois de l'homme. Un homme et une femme qui représentent le couple. Lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, tout le monde se dit, il se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux faire mieux? Comment je peux arranger, changer, etc. Le rabbi Rachab explique quelque chose de merveilleux dont j'aimerais partager avec vous. Le vrai jugement de Rosh Hashanah n'est pas sur ce qui s'est passé l'année dernière, car ce qui s'est passé l'année dernière est passé, le passé est passé. Nous avons besoin de prendre de bonnes décisions pour l'année qui vient. Nous pouvons illustrer cela par un machal, une parabole très intéressante. C'est comme si tu allais voir un banquier avec un business plan prévisionnel qui a été rédigé par un comptable, dans lequel tout est bien arrangé, tout est bien écrit, aligné, de manière à ce que le banquier adhère et t'accompagne pour ton projet. Eh bien, c'est un peu la même chose. Pour nous, on doit se présenter devant Hachem avec de bonnes décisions, de bonnes résolutions pour l'année qui vient. C'est ça, Rosh Hashanah. Mais pas uniquement du point de vue individuel. Bien sûr que du point de vue individuel, il faut le faire, il faut prendre de nouvelles résolutions. Mais pas que. Où je veux en venir sur la notion du couple? Bien sûr. Mais avons-nous pensé à notre époux, à notre épouse? On pense souvent à nous-mêmes. Un peu trop d'ailleurs. Et pas assez à la notion de Echad, l'union, l'ardout, l'union de deux entités qui finalement n'en font qu'une seule en réalité. En l'occurrence, le couple. En vérité, le couple doit également faire tchouva, car c'est une entité entière par elle-même. Eh oui, nous aurons besoin aussi de voir avec son mari ou son épouse les mitzvot que nous allons faire cette année ensemble. Prenons l'exemple d'un homme qui travaille dur et qui rentre tard le soir, qui rentre en général, on va dire, après 20 heures. Eh bien, si l'homme décide, comme un accord avec son épouse, de rentrer plus tôt, de rentrer à 19 h au lieu de 20 h. Comme un accord commun avec son épouse, Dorénavant, il devra rentrer à 19h. Supposons qu'un soir, il sait qu'il va arriver en retard. Eh bien, dans ce cas-là, il doit présenter et appeler son épouse pour lui expliquer qu'il va rentrer plus tard et lui demander la permission à rentrer plus tard. C'est pas un acquis. Comprenez ce que je veux dire? Réciproquement, une épouse aussi, elle va devoir demander à son mari et se mettre d'accord sur certaines choses qu'ils auront prédéfinies ensemble. Vous avez compris là où je veux en venir, mesdames. Le couple, c'est une entité entière. Le Shabbat, la femme prépare la maison, cuisine les plats de Shabbat, s'occupe des enfants, mais quel travail! Un travail gigantesque. Et nous, le mari, qu'est-ce qu'il apporte? Il est censé, lui, apporter, selon la tradition juive, ce qu'on appelle le divin. Qu'est-ce que c'est que le divin? Eh bien, un exemple. Un mari qui prononce le kiddush. Très souvent, je l'ai remarqué, et on peut le remarquer, que le kiddush, des fois, il l'avale plus vite que la boulette qu'il doit manger. Vous imaginez? Mais... Et est-ce qu'un mari a la kavana d'arriver à l'heure à la synagogue? La kavana, c'est la pensée d'arriver à l'heure à la synagogue. Pas pour lui, pour l'honneur de sa femme aussi. Et de prier correctement, convenablement, de comprendre ce qu'il lit. Ces choses-là sont très importantes. Combien d'alachot, de lois ou de midrashim il a préparé pour étudier? Tous les deux, en amoureux. En général, les femmes aiment bien écouter leur mari raconter des choses agréables, comme quelques thèmes sur la parashat à Shavua, des midrashim, sur la parasha ou des alachot, des lois. C'est ça la tchouva de couple, c'est travailler ensemble. Je vais vous ramener une très très jolie image dont la source est ramenée dans le Zohar. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, et Yocheved, sa mère, ont reçu l'information directe d'Akadosh Baruch Hu d'Hachem. Quelle information ils ont reçue? Qu'ils allaient donner naissance à Moshe Rabbeinu, le libérateur du Ham Israël. Et vous savez, quelle puissance, dans quel état on peut être à ce moment-là quand on apprend une chose pareille? C'est inimaginable. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Il y a une première union qui s'est faite entre eux. Et une seconde union qui s'est déroulée entre eux et Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'ils ont eu Moshe. Ils ont uni leur union à Akadosh Baruch Hu. Je finirai par un rappel sur ce qu'est la définition de la tshuva. Vous le savez peut-être, mais c'est toujours bien de le rappeler. La tshuva est décomposée en 4 étapes. La première étape, c'est abandonner. Abandonner le mauvais chemin, bien évidemment. La seconde étape, regretter sa faute. La troisième étape, l'avouer devant un Kadosh Baruch Hu. Avouer sa faute. C'est pas toujours évident. Et enfin, la dernière chose, et la quatrième, s'engager à ne plus la commettre, à ne plus récidiver. C'est ça la tshuva. Il faut savoir qu'entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a 10 jours, 10 jours de tshuva. C'est un cadeau précieux qu'Hachem nous a offert pour effacer nos fautes. D'ailleurs, à ce propos, les Mekoubalim nous enseignent que chacun de ces jours permet de réparer toutes nos fautes commises, depuis la naissance même. Vous imaginez? Depuis le début de notre vie. C'est extraordinaire. Que de mieux que ces 10 jours. C'est pour ça que ces 10 jours, il faut essayer d'avoir un comportement exemplaire. Il faut savoir que la plupart de nos fautes sont liées à quoi? Vous le savez? Ben, je vais vous le dire. La plupart de nos fautes sont liées à nos midot, nos traits de caractère. Le Sefer Hayetzira, attribué d'ailleurs à Avraham Avinu, nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Il nous enseigne que l'homme, comme le monde, ont été créés à partir de 4 éléments. Quels sont ces 4 éléments? L'eau, le feu, le vent et la terre. Chacun de ces 4 éléments est symbolisé par quelque chose. L'eau symbolise la cupidité des plaisirs de ce monde, qui s'efforce de nous tromper sur le sens réel de notre venue dans ce monde. Le feu symbolise la colère, le symbole de la colère à l'image du feu. Elle détruit le monde et les relations humaines. Une catastrophe. Le vent, quant à lui, symbolise l'orgueil. Chose que Kadosh Baruch Hu ne supporte pas. Les gens orgueilleux. Et enfin, la terre, dernier élément, est symbole de la paresse. C'est d'ailleurs le mal de notre génération. Nous devons procéder à une introspection profonde, avec lucidité, afin de voir à quel point nous sommes concernés par chacun de ces quatre symboles. La tshuva, dans tous les cas, passe par un travail sur ces midot. Mesdames, prenez les bonnes décisions cette année, que ce soit au niveau individuel ou bien au niveau de votre couple. Je vous souhaite du fond du cœur à toutes et à tous une très très bonne année. Chatima Tova, les Shana Tova en tout cas, et que cette année, nous puissions vivre la Géoula avec Mashiach. Amen.